Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h37, on va choisir son camp. Javier Milei, le nouveau président argentin, qui commence à mettre en œuvre sa politique avec des résultats, hein, puisque le pays vient d'enregistrer un excédent public. C'est le trimestriel. C'est du jamais vu depuis 15 ans, mais évidemment, ça a une contrepartie, c'est la cure d'austérité imposée au pays. Explication d'Alexandra Paget.
Une première depuis 2008, au premier trimestre, l'État argentin a affiché un excédent d'un peu plus de 300 millions de dollars, selon la présidence, qui ne s'est pas privée de souligner cet exploit historique. Et Javier Milei, économiste d'obédience libertarienne tout frais élu à la tête du pays, d'expliquer
« Si l'État ne dépense pas plus qu'il ne perçoit et n'a pas recours aux émissions, il n'y a pas d'inflation. Ce n'est pas de la magie. »
Ce qui n'est pas magique non plus, ce sont les conséquences du programme de réduction drastique des dépenses publiques. Si les comptes argentins se redressent, la population argentine est la première victime de la politique à la tronçonneuse de son nouveau président. Monnaie en chute libre, le peso a perdu plus de 60% de sa valeur, 70 000 suppressions de postes dans la fonction publique, coupe sombre dans les subventions étatiques de centaines de programmes sociaux et un niveau de pauvreté qui lui aussi bat des records. En deux mois, entre la fin de l'année dernière et le début de celle-ci, il serait revenu à celui de l'Argentine des années 2000, c'est-à-dire 57,4% de la population fin janvier, selon l'Université catholique argentine.
Alors, on aurait aussi pu parler du marché immobilier avec l'offre locative qui explose. Est-ce que, Marc, on peut suivre le modèle argentin ?
Oui, alors, le modèle argentin, c'est quand même un modèle un peu exagéré, on va dire. Moi, je dirais, il faut suivre le modèle grec, il faut suivre le modèle portugais, il faut suivre le modèle espagnol. Alors, c'est intéressant d'avoir l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est le modèle qu'il faut suivre avec une loupe grossissante. Donc, c'est toujours intéressant, parce que c'est un vrai laboratoire dans l'excès de ce qu'il faut faire. Après, moi, j'entends... Le pays, le taux de pauvreté, tout ça. Sauf que là, il fait simplement que constater une réalité. C'est-à-dire que le pays était déjà pauvre. Et donc, à un moment donné, il faut reconnaître la situation, il faut prendre la situation à bras-le-corps. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment ça me rend hystérique le fait que le mot austérité soit devenu un mot au gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire que le gars qui sort ça, il se fait dégager, il saute. Il faut surtout pas dire austérité. Je comprends pas le sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est dans une situation dans laquelle, et la France, on reparlera de la notation, dans laquelle sont un nombre de pays, à partir du moment où vous avez des dépenses qui sont supérieures aux recettes, il faut le répéter quand même, et quand on me dit non, ben, l'économie d'un pays, c'est pas l'économie d'un ménage, je dis ça, c'est vraiment des conneries, excusez-moi. Quand on a des dépenses qui sont supérieures aux recettes, on est obligé de passer par une purge. C'est normal. Cette purge, ça s'appelle austérité, elle est souhaitable, et c'est la condition sine qua non pour un pays qui est en difficulté pour retrouver de la croissance.
Alors évidemment, Eric Ayer, le néo-keynésien que vous êtes, ne peut pas accepter d'entendre dire ça, que lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, ça ne peut pas fonctionner. Il faut voir l'État comme un ménage.
On peut essayer de le regarder comme un ménage d'une entreprise, mais ça, normalement, on le fait d'un point de vue pédagogique, mais après, il faut s'arrêter tout de suite et dire non, ce n'est pas un ménage. Il y a plusieurs différences, on n'a pas le temps de l'évoquer. Mais pourquoi on peut avoir des dépenses au-dessus des recettes? C'est si ces dépenses, c'est des dépenses d'investissement. Il est normal, même un chef d'entreprise et même Marc Fiorentino, j'imagine que de temps en temps, il dépense plus qu'il n'a parce qu'il s'endette pour investir. Et donc, si vous avez un objectif d'investissement et dans les dépenses publiques, vous voyez, on connaît plus l'Europe que l'Argentine, désolé, mais en gros, globalement, ce que nous disent tous les comptables nationaux d'Eurostat, c'est qu'on consacre 3 points et demi, voire 4 points de PIB à l'investissement public.
Donc, reste, c'est de la mauvaise dette.
Alors, voilà.
C'est du mauvais déficit.
C'est du mauvais déficit. Mais vous voyez, qu'est-ce que je viens de dire? 3 à 4 points de PIB chaque année d'investissement public. Ça voudrait dire que quelque part, on peut avoir 3 à 4 points de déficit.
Mais il y a aussi du mauvais grain, dans le budget de la France, Il y a aussi des dépenses.
C'est bien qu'il faut être un peu plus, nuancé que Marc en disant, c'est pas parce qu'on dépense plus que nos recettes que c'est mauvais. Ça dépend à quoi on a utilisé nos dépenses. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière l'investissement? Et dire, il faut coûte que coûte être un déficit nul est une très mauvaise politique économique, et ça m'étonne qu'un investisseur aussi avisé que Marc Fiorentino dise ça, parce que effectivement, ne rien faire aujourd'hui, avoir des déficits nuls, ça veut dire je n'investis pas dans l'avenir. Peut-être qu'à court terme Marc sera content, mais à très long terme les infrastructures se dégradent, il y a des investissements qu'on aurait dû faire qui ne se font pas, et là on va se dire pourquoi on
le privé prend pas le relais.
C'est intéressant parce que c'est vraiment grâce à ce discours-là qu'on a depuis des années qu'on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on stampe.
C'est une grosse responsabilité pour Éric Guéhier, mais...
Ouais. Non, non, c'est lui, hein, il est en partie responsable de la débâcle dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
On débat ensemble depuis 20 ans. C'est quand même une situation où on met le mot investissement sur ce qui n'est pas un investissement. D'ailleurs, si c'était vraiment des investissements, on ne serait pas dans la position dans laquelle est l'Europe aujourd'hui. Si on avait réellement investi, comme disait Eric, depuis des années pour créer une industrie forte, on ne serait pas à la ramasse comme on l'est aujourd'hui sur la technologie notamment et dans plein d'autres secteurs.
Peut-être parce que l'État n'est pas le meilleur investisseur.
En fait, on déguise. Et ça, c'est très typique hein, d'une partie de la classe économique et politique, c'est-à-dire de vouloir faire de l'État le moteur de l'investissement. Je voudrais juste donner un chiffre. Meta, Facebook, annonce 35 à 40 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. C'est plus que la France et ça sera surtout beaucoup plus efficace de la France. Donc arrêtons de penser que ça va être le gouvernement qui doit faire des investissements pour créer de la croissance. Si c'était vrai, on aurait de la croissance et on serait pas à la ramasse.
Non, voilà, c'est là la différence entre une entreprise et un public. C'est que l'investissement public n'a pas but d'avoir des rendements à court terme.
Ça, c'est sûr. Très bien.
Et oui, mais voyez, regardez, allez, prenons ce qui est le plus important, l'environnement. Investir dans l'environnement. Est-ce que c'est pas le plus important?
Le retour, 50 milliards
le retour sur investissement de ce type d'investissement, c'est zéro. C'est pas ça qui va vous faire de la croissance demain. En revanche, c'est ça qui va permettre à nos enfants de pouvoir respirer. C'est ça qui va permettre à nos enfants d'éviter ces grands flux migratoires. Est-ce que c'est pas aux États à s'y intéresser? Parce que le privé ne le fera pas. Et donc, c'est peut-être le meilleur investissement à faire. Et si ce n'est pas rentable, ce n'est pas grave.
Eric, aujourd'hui, la France, on n'investit pas que dans la transition. On dit qu'on va faire des panneaux photovoltaïques, on dit qu'on va faire des éoliennes,
Mais un, d'abord, il faut quand même dire à Marc, non, il n'y a pas de chiffres truqués, les comptables nationaux ne truquent pas la comptabilité. Ça se passe
peut-être... Non, c'est du faux investissement.
L'investissement,
moi je suis...
C'est pas mis dans la bonne ligne comptable.
Ce qu'il va falloir, c'est que Marc Fiorentino aille se faire embaucher à Eurostat et change la comptabilité. Cas-là, vous pouvez pas dire d'un côté.
Non, mais parce que.
Mais aidez-leur à faire le travail.
Tu me dis à partir du moment où on se réfère à l'entreprise et moi, en tant qu'investisseur, je sais ce que c'est qu'un investissement. Je sais ce que c'est qu'un investissement productif. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu viens de shifter en disant, comme tu vois que sur la notion d'investissement productif rentable, il y a pas de chiffre. Donc tu dis maintenant, c'est pas grave, il faut faire de l'investissement qui est pas rentable. Parce que il vaut mieux respirer. Non. Le problème, c'est que le jour où on pourra respirer l'air que tu veux qu'on respire, on sera déjà mort depuis un moment. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation économique qui est dramatique.
Jamais de la vie. Et voilà. Non, mais regardons. Mais vous voyez, ces discussions, on les a tous les jours. Donc, chez les économistes, on n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle un investissement public. Mais vous voyez, dépenser dans l'éducation. Payer des enseignants, c'est un investissement ou c'est du fonctionnement?
C'est un investissement.
On met dans le fonctionnement qu'il y a du fonctionnement qui est de l'investissement.
Je peux répondre?
Oui.
Je suis investisseur. Quand j'investis dans l'enseignement, je vois si mon investissement est rentable, c'est-à-dire pas forcément rentable financièrement, mais si l'argent est bien utilisé. Le problème de tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est que d'un côté tu dis l'investissement productif, ça il faut oublier, l'État n'y arrive pas. Ensuite, dans l'écologie et l'éducation, ça c'est des investissements non productifs. Attention, dans l'investissement même non productif, il faut que l'investissement soit bien utilisé.
Bien entendu,
aujourd'hui, système ne fonctionne pas. L'éducation ne fonctionne pas, la santé ne fonctionne pas, la transition écologique.
Alors, Marc Fiorentino, Éric Guéhier, il y aura un juge de paix ce soir, deux juges de paix, deux agences de notation qui vont dire justement si notre dette et le déficit sont normales, font partie d'une logique d'investissement ou si c'est la gabegie et la dépense. On a demandé à plusieurs économistes ce qu'ils en pensaient. On a par exemple posé la question à David Gau, de partenaire et CEO de Bédurant Capital, si c'était dangereux et s'il fallait redouter cette baisse de notation ce soir.
Les agences de notation ont toujours la même importance parce qu'en fait, dans une majorité de fonds institutionnels, donc les sociétés d'asset management, les fonds souverains, on organise encore énormément les screenings en fait et les revues de, et les sélections d'obligations par ces notations. Et donc lorsque vous chutez d'une catégorie, il y a des tas de gérants de fonds, de portefeuilles qui ne peuvent plus théoriquement venir acheter ou devront acheter moins de vos obligations parce que finalement le risque est considéré comme plus élevé et donc le coût en capital est plus important pour pouvoir acheter l'équivalent.
Marc, vous rêveriez qu'on soit dégradé ce soir ? Ça peut-être arriver. Hein.
Oui, enfin, je rêverais. Je pense que c'est nécessaire. Et en fait, je pense que c'est pas du tout suffisant. La seule chose, juste qu'a dit Eric depuis le début de l'émission, c'est qu'on passe d'une note de 18 à 16. Où il a raison. Non. Et on mérite 8. Donc 16, oui, alors qu'on soit dégradé. Le problème, c'est qu'on bénéficie aujourd'hui de ce que je dénonce depuis des mois ou des années, c'est-à-dire une totale impunité. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire n'importe quoi, ce qu'on fait, avec l'aval de l'Europe, grâce à l'euro, avec l'aval de l'Allemagne, avec des taux d'intérêt qui ne reflètent pas, on est à 3% de taux d'intérêt d'emprunt d'État à 10 ans, c'est totalement ridicule. Avec, donc il n'y aura pas de sanctions, c'est ça le problème.
Avec l'aval de nos créanciers aussi. C'est comme une entreprise privée qui est surendettée, à un moment donné.
Parce qu'ils en veulent.
On l'a bien vu avec Casino, on le voit avec Atos. Le moment où on dit.
C'est pas l'aval. Non, vous vous trompez si je peux me permettre. Avec deux garanties. Même les agences de notation raisonnent comme ça. Elles raisonnent d'abord en se disant de l'autre côté de la dette, il y a l'épargne des ménages. D'accord ? Et au pire, on aura un scénario à la Chypre. D'accord ? Donc de l'autre côté, il y a l'épargne des ménages. Et d'autre part, on a la garantie et de la Banque Centrale Européenne. Et si on a la garantie de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'en fait, on a la garantie de l'Allemagne. Le problème, c'est que l'Allemagne ne peut pas nous lâcher. On le sait, on en profite. Donc on continue à raconter n'importe quoi.
Donc il va rien se passer.
Pour l'instant, malheureusement, il va rien se passer.
Je joue le rôle de la dette française, Eric.
Eric, il pense que c'est vous qui dites n'importe quoi.
Mais il est plus poli.
Non, mais depuis que je connais Marc, et c'est à peu près depuis 2008, il nous dit que les taux d'intérêt ne peuvent qu'augmenter et ne fait que baisser.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'on est en toute impunité.
On était à 66 de dette publique, on était déjà en faillite. Là, on est à 110, on devrait être mort enterré. On ne l'est pas. On n'est ni mort ni enterré.
Bénéficie d'une impunité. Alors, c'est pas pourquoi, ce que je dis. Je dis pas que les taux d'intérêt vont monter.
Ce qui serait intéressant, moi je veux bien l'entendre ce discours, parce que ça fait longtemps, mais j'aimerais me comprendre pourquoi l'Italie ne bénéficie pas de cette même protection.
Alors c'est pas beaucoup mieux. En termes de finances publiques, c'est même pire.
Ah ben si, eux ils sont notés 11 sur 20, justement. Oui. Pourquoi ils sont notés 11 sur 20 ? Pourquoi ils ont des taux d'intérêt qui sont montés jusqu'à 7 quand nous ils baissaient ?
Ils sont à combien là aujourd'hui, Eric ?
Non, ok, ils ont.
Mais à combien ils sont aujourd'hui ?
Ils sont à un point de nous.
Ok, c'est rien du tout.
Non, d'accord, mais il y a eu une crise de la dette. Entre temps, ils sont montés à 7 et ils sont montés.
Aujourd'hui,
ils sont montés à 2 points.
Aujourd'hui, ils se rapprochent dangereusement, comme l'Espagne, du taux français.
Ok, dangereusement. Non, c'est pas cela l'idée.
C'est pas grave,
l'idée,
hein, mais
moi je veux bien admettre qu'effectivement l'euro, d'accord, le fait qu'on est en euro.
Et l'Allemagne
et les Pays-Bas,
effectivement.
Alors nous protège. Non.
Si.
Le fait qu'on soit, il n'y a pas de protection.
Mais si c'est comme si toi tu étais en découvert.
Marc, j'aimerais bien savoir pourquoi, Eric.
Mais non, mais c'est OK. Vous voyez,
il comprend pas la notion de garantie.
Je veux bien penser que effectivement la Banque Centrale Européenne, depuis le whatever it takes de Mario Draghi, dit l'euro existera encore demain. C'est ça qui nous protège. C'est effectivement si on garantit que l'euro existera demain, c'est ça qui nous protège. Si on nous dit peut-être que demain l'euro va disparaître, il est possible que les taux d'intérêt, y compris sur la dette française,
mais Marc,
augmentent.
Il va dire l'euro c'est l'Allemagne.
Mais l'euro c'est pas que l'Allemagne. On est ensemble. Non, ensuite, pourquoi la France lève aussi bien ? Pourquoi il n'y a pas de risque de faillite ?
Pourquoi,
à la fois il y a les agences note 18 et que les marchés financiers qui ne suivent pas forcément les agences de notation mettent des taux extrêmement bas ? C'est parce que, vous voyez, ça m'étonne que Marc fasse pas ce petit exercice, il y a la dette, mais la dette, il y a en face des actifs.
Oui, l'actif des ménages.
Non.
Pas l'actif de l'État. C'est ça le drame.
Attendez. Allez sur le compte de l'INSEE, tapez compte de patrimoine des administrations publiques. Donc il y aura la dette publique des administrations publiques. Il n'y a pas les Français dedans. Et vous regardez les actifs des administrations publiques. Ben, vous savez quoi ? Il y a plus d'actifs que de passifs. Il y a 30,6 points d'actifs nets. Quand vous avez plus d'actifs que de passifs, vous ne pouvez pas être en faillite. Et on est le seul pays, vous voyez, contrairement au Royaume-Uni, on n'a pas fait nos vagues de privatisation. l'État français dispose encore d'entreprises publiques qu'elle peut privatiser, comme la Française des Jeux en 2019. Elle a des actions. Et donc, du coup, tant que vous avez plus d'actifs que de passifs, il n'y aura jamais de faillite de l'État français.
Marc, dernier mot.
Oui, dernier mot, c'est, en fait, on va boucler avec le premier sujet. Si aujourd'hui, on bénéficie d'une impunité, contrairement à ce que tu dis, je pense que malheureusement, on continuera à bénéficier d'une impunité. Et donc, malheureusement, les taux d'intérêt ne vont pas monter. Et il faudrait qu'ils montent pour qu'on fasse les efforts nécessaires. C'est qu'on a, en fait, deux catégories de personnes ou d'entités qui font ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire qui ne dépensent pas plus qu'elles ne gagnent. Mmh. Un, les ménages, c'est une partie de la garantie de la dette française. Deux, l'Allemagne, qui respecte des règles de gestion budgétaire, qui sont des vraies règles de gestion budgétaire. Mmh. Et si ces deux entités ne faisait pas ce qu'elle devait faire, on serait aujourd'hui totalement en faillite.
10 secondes, Eric.
Non, mais 10 secondes, c'est que, en fait, la grave. Question n'est pas quel est notre niveau de dette, c'est à quoi elle a servi. Et je suis d'accord. Eh ben, alors, non, alors, je suis pas d'accord complètement là-dessus, mais je suis d'accord que depuis 4 ans, effectivement, elle est mal utilisée. Et donc, il va falloir, effectivement, résorber ces 10 points de dette qui est en trop.
Ah, ben, on y est arrivé.
On y est.
Marc.
Mais oui, mais alors, mais pas la réduction de la dépense publique, aussi par l'augmentation des impôts.